Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous êtes de retour dans les grandes gueules du sport. Bon réveil si vous vous réveillez seulement maintenant à 10h08. Vous le savez, les grandes gueules du sport ce dimanche, composé de Jean-Michel Larqué pour son comeback, Renaud Longuèvre, Marion Bartoli et Christophe Cessieux. Si vous avez raté la première heure, c'est pas grave, il y a le podcast des GG qui est disponible dès maintenant pour entendre notamment notre débat après Lens-Marseille et puis un avis très intéressant aussi de Captain sur Brad Pitt. C'est à ne pas rater dans le podcast, bien sûr. À 11h, on parlera de l'athlétisme français en grosse difficulté à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on se dirige vers un zéro pointé? On demandera l'avis de nos GG et puis ne manquez pas, dans 30 minutes, le fameux débat caché. Un guet-apens pour les grandes gueules. Les GG ne savent rien de ce débat et pourtant, elles vont tout vous dire. C'est dans trois quarts d'heure. Est-ce que les GG, vous avez un avis sur le débat caché? Une idée? Jean-Michel?
Non, je me laisse guider. Non.
Très bien. Marion, non, t'as pas d'idée sur...
Non,
t'as pas bossé quelque chose en plus?
Non. Toujours, mais je sèche là parce que... Allez, pour changer du foot? Non, je sais pas.
Je sais pas. Peut-être. On verra. Mais pas sûr.
Du judo. Du judo.
Peut-être, on verra.
Ouais, je le sens bien, le judo.
T'es en boucle, Christophe, depuis hier.
Ben ouais, mais parce que tu sais qu'on n'a pas parlé une seule fois de judo depuis le début du week-end, alors que les championnats du monde débutent aujourd'hui, quoi.
Mais je sais, je l'avais préparé avec Teddy Riner.
Ouais, mais Teddy Riner, il combat la semaine prochaine.
Bon, ouais, mais bon, il n'y a pas Riner dans le judo français. Non, mais arrêtez de faire une fixette sur Riner, quoi.
Bon,
on a des championnes d'exception.
Ça sera dans trois quarts d'heure, effectivement, et on verra si on parle de judo ou non. N'oubliez pas qu'RMC aussi vous offre une expérience unique pour vivre Manchester City-Real Madrid. C'est en demi-finale retour de Ligue des Champions. C'est le 17 mai. Le voyage à Manchester avec Oussem Moussaïev comme guide. La rencontre avec les équipes RMC Sport avant le match.
Il est super, Oussem.
Il est super comme guide. Et puis, bien sûr, votre place pour le match.
Portez des valises aussi?
Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est compris dans le prix. Hein, faudra le demander. Dès que vous entendez ceci. Vous avez 5 minutes pour envoyer foot au 7-32-16. Des places à gagner dans les grandes gueules du sport pour Manchester City, Real Madrid. Et donc le signal peut tomber à tout moment. Soyez à l'écoute. Mais d'abord, à 10h10 sur RMC, les artistes entrent dans l'arène. Nantes est au bord du précipice. Les Nantais reçoivent Strasbourg à 15h aujourd'hui en position de relégable. Il reste 5 matchs aux Canaries pour se sauver. Et la direction du FC Nantes a promis une prime à ses joueurs en cas de maintien. Est-ce que ce sera suffisant? C'est évidemment toute la question. Dans le coin gauche, il trouve ça totalement ridicule. C'est la team ridicule composée de Christophe Cessieux, Renaud Longuèvre et Jean-Michel Larqué.
Eh ben, je suis seul, d'accord. Okay.
Et dans le coin droit, vous l'avez compris, elle pense que c'est une bonne idée. C'est la team astucieux avec Marion Bartoli. Allez, c'est parti pour le bras de fer.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Il y a un sondage sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Prime de maintien à Nantes, ridicule ou astucieux pour l'instant. La team ridicule domine 64%. La team astucieux 36%. Marion, il va falloir être convaincante. Vous pouvez bien sûr toujours aller voter et voir si Marion va faire cette petite remontée. Avant de vous entendre, on accueille Pierre-Yves Leroux, arbitre de ce bras de fer. Salut Pierre-Yves.
Salut François, bonjour à tous.
Plutôt du genre ridicule, lui, non?
Commence pas, toi.
Tu suis le destin de Nantes depuis plusieurs années. Alors, ce n'est pas la première fois, on est d'accord que Nantes utilise cette méthode des primes.
Oui, effectivement, il y a 2 ans, alors qu'Antoine Comboiré a repris l'équipe depuis 3 mois et réussi à maintenir d'ailleurs les Canaries dans la lutte pour le maintien, Valdemar Quita, président du FC Nantes, avait déjà utilisé ce levier, exactement la même journée d'ailleurs. Les Nantais étaient 19e et allaient affronter Strasbourg, comme cet après-midi. Et ils s'étaient imposés 2-1 avant de se maintenir en fin de saison avec ce fameux barrage contre Toulouse. Et à l'époque, Antoine Comboiré avait expliqué que pour lui, ce n'était pas ça qui faisait courir les joueurs plus vite. Vendredi dernier, il n'avait pas vraiment changé de position.
La direction a dit comment on peut aider les joueurs, donc peut-être en mettant une prime. Mais les premiers qui disent ça aujourd'hui, voilà, ils sont choqués. Et puis si demain ça nous permet de nous maintenir, on dira bravo, quoi. C'est bien, quoi. Et puis si ça fait pas, mais dire regardez, c'est pas parce qu'on a mis de l'argent que ça a permis aux joueurs de courir plus vite et puis de sauter plus haut puis de gagner les matchs, quoi. Donc après on tirera les conclusions après. Aujourd'hui on ne parle que de ça, quoi, d'argent, Messi, les contrats. Si ça peut aider les joueurs, c'est bien, quoi. Voilà. J'ai toujours pensé moi que c'est pas ça qui fait courir les joueurs, voilà. Mais si ça peut aider, tant mieux. Tant mieux.
Voilà. Antoine Comboiré qui a aussi précisé hein, quand même qu'il comprenait l'incompréhension de certains en expliquant que le milieu du foot était comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en interne, au sein des salariés du club, certains grincent quand même des dents avec le sentiment que tout le monde n'est pas traité équitablement.
En tout cas, tu restes avec nous, Pierre-Yves, pour arbitrer, je le disais, ce bras de fer GG avec donc Marc Lyon-Bartoli qui est seul à dire
que c'est astucieux.
Oui, attends, sois fort, Marion, sois fort.
La France compte sur toi.
Du coup, on va pas commencer par toi, Marion, mais on va commencer par Jean-Michel qui, lui, trouve ça ridicule, visiblement.
Oh, c'est même pathétique. C'est la même personne. C'est la même personne qui a donc eu cette idée géniale de donner une carotte avec des billets de 50, de 100 ou même davantage aux joueurs. C'est la même personne qui, au soir de la victoire contre Lyon en Coupe de France, disait qu'il n'en avait rien à cirer de la finale de la Coupe de France et que pour lui, l'important, c'était de se maintenir en Ligue 1. Ce jour-là, lorsqu'il a dit ça, je pense qu'il a coupé non pas une jambe, mais deux jambes à des joueurs et jouer sans jambes au football, c'est vachement difficile. Bon, c'est cette même personne qui pense que on peut tout gagner et on peut tout acheter avec de l'argent.
T'arrives même pas à dire faux. Son nom, hein.
Non, mais parce que c'est même pas ça. Marion, je vais te raconter, et je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous n'étiez à l'époque qu'un projet affectif, sauf pour Christophe, qui était déjà né.
Qui était déjà né.
Mais il y a, en 76, je discutais les primes de match avec mon président. Et les primes de match, enfin je les discutais, non je les discutais presque pas, puisque nous connaissions nos primes de match de Ligue des Champions, je parle bien de Ligue des Champions, ou plus exactement de la Coupe d'Europe des clubs champions, voilà la dénomination exacte, que après la qualification. Qu'après la qualification, et là j'ai discuté de la prime. La seule fois où... C'est pas moi qui l'ai demandé, où le président m'a convoqué en me disant « Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses de cette prime de finale de Coupe d'Europe contre le Bayern de Munich ?» Et je vais vous faire une révélation. À l'époque, c'était 5 millions de centimes. C'était énorme pour nous. Tu te rappelles, tu vois, en 76, ce que ça pouvait représenter, Christophe.
Ouais. Eh ben, on l'a pas 5 gagné, millions hein. D'anciens francs, c'est ça, c'est ce qu'on appelle 5, les anciens francs.
5 millions de centimes. Oui, puisque c'est et on l'a pas gagné. Et on n'a pas gagné. C'est la seule fois où on connaissait notre prime de match. Donc penser qu'une prime de maintien va rendre meilleur et va laver les têtes de Palois et de ses coéquipiers, mais c'est pathétique, c'est ridicule, c'est même à mon avis, c'est même tordu.
Après, c'est tordu. C'est peut-être efficace. Ça doit être ce que
mais
pense
si,
Mario.
Si ça avait été efficace, ils ont déjà quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que s'ils descendent en Ligue 2, leur salaire va passer à 15 000 euros par mois, ce qui est quand même
leur,
misère.
Leur salaire et leur statut. Et leur statut.
Hein, tu le sais comme moi. Certains ont quitté le club, ont quitté le navire. Parce qu'ils vont être convoités.
Mais c'est pas, enfin, je sais. À moins que la vénalité soit à ce point importante en football, je vois pas, et je suis d'accord avec Jean-Michel, je vois pas comment ça peut motiver, ça peut transformer des ânes en chevaux de course, quoi.
Je pense que pour la finale de la Coupe de France, ils avaient une prime, ça les a pas empêchés de ne pas gagner ce match-là. Donc,
de pas le jouer, Jean-Michel.
Ou de pas le jouer, en plus de pas le jouer, oui. Donc, on est là dans les... C'est méconnaître quand même. Enfin, je pense pas que Marion ou moi-même, nous soyons entrés sur un court ou sur un terrain de football en imaginant que si l'on gagnait, on allait gagner tant d'argent à un moment ou à un autre. Je pense pas que lors de sa finale, elle a pensé un seul instant au chèque qu'elle aurait à la fin de la finale. À Wimbledon, mais c'est absolument pathétique. Alors et c'est pour ça que je m'étonne que Marion soit dans le camp des oui, ça peut être efficace. Ça m'étonne.
Non, mais en fait, je suis même pas dans le camp des oui. C'est juste que j'ai pas, je suis un petit peu réaliste, si tu veux. Et le truc, c'est que dans le foot, ça existe depuis, mais alors la nuit des temps, c'est l'histoire de prime. C'est juste que là, comme c'est sorti, c'est archi médiatisé et que tout le monde d'un coup a l'impression de découvrir, on va dire dans le grand public, qu'il y a des primes de match, mais que ça existe depuis toujours, et même pas des primes de maintien. Dans plein de clubs, il y a des présidents qui arrivent dans les vestiaires avant le match sur un club sur un match très important, un gros derby, un match pour rester numéro 1, un match de Champions League, ce que vous voulez.
Non, mais Marion,
les gars, vous gagnez aujourd'hui, allez hop, double prime, ou alors allez, double prime et deux jours. Ça c'est toujours fait,
Mais non, Marion, ça on le dit à la fin du match. Oh, président, on chante dans le match. Il dit oui, double. Mais c'est à la fin du match, une fois que tu as gagné.
Ça se fait avant, Jean-Michel. Maintenant, ils rentrent, ils disent avant. Le monde actuel a évolué par rapport à nous. Nous, on est restés effectivement assez candides.
Il a évolué, pas toujours en bien. En Espagne, il y avait les petites maletas, les maletillas, tu sais, un club donnait donnait une prime à l'équipe qui rencontrait l'adversaire direct de son club. Ça n'existe plus parce qu'ils se sont rendu compte que c'était totalement inefficace.
Mais regarde ce que fait Leeds actuellement. Ils font exactement pareil. Ils ont recruté un entraîneur pour 4 matchs, pour les 4 derniers matchs. Alors ils en ont fait un hier et contre City d'ailleurs, ça a été beaucoup plus accroché que prévu. Ils ont perdu que 2-1. Ils ont proposé 2,5 millions de pounds au nouvel entraîneur s'il arrive à maintenir son club en première ligue. C'est quoi?
Et tu penses que ça le rend meilleur quand il prend
Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas du canon. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est dans le fonctionnement du foot actuel. Alors je le cautionne pas du tout. C'est pas ça, mais je suis réaliste par rapport à ce qui se passe actuellement.
Ouais, Marion,
dans le monde actuel, pour de nombreux joueurs, pour de nombreux entraîneurs, pour de nombreuses personnes dans le sport, un de gros levier de motivation, ça reste l'argent. Alors nous, on n'a pas ces valeurs-là, ok, Mais malheureusement, Jean-Michel, c'est ça actuellement, c'est ça quand tu parles à des joueurs de tennis ou des joueuses de tennis, je peux t'assurer que quand tu parles à des jeunes joueurs de tennis actuellement, je vais prendre mon sport. Il y a beaucoup de jeunes qui te disent, moi, quand j'ai gagné un certain montant, les résultats, ça a plus beaucoup d'importance. Ça reste aujourd'hui dans la société actuelle où tout est tellement basé sur effectivement l'apparence extérieure, ce que tu possèdes, ce que tu peux afficher sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est devenu un énorme levier de motivation. Et comme Kita, effectivement, coutumier du fait, puisque vous l'avez rappelé il y a 2 ans, il avait fait exactement la même chose, moi, ça finit par même plus me surprendre. C'est juste que là, ça a été un peu plus médiatisé, c'est tout.
Alors, c'est vrai.
Exemple-là, Marion, c'est pas, tu vois, Jean-Michel, il prenait l'exemple, toi, ta finale, est-ce que t'as pensé à l'argent et tout, mais c'est pas vraiment cet exemple-là. C'est, imagine, Marion, toi, t'es en carrière, par exemple, t'enchaînes 2 mois catastrophiques où tu gagnes plus un match. Ça arrive, t'es en perte de confiance complète. Et t'as tous tes partenaires qui se mettent ensemble, qui t'appellent et qui te disent, bon Marion, là, il y a Roland, on te double tes montants si tu te fais pas éliminer au premier tour. Mais moi, je suis joueur du FC Nantes, je le prends mal, c'est limite insultant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te fait passer quelque part pour un crevard qui a besoin que de ça pour avancer. C'est de la psychologie du sport. C'est un sujet sérieux. Là, il y a une confusion qui est énorme entre motivation extrinsèque et confiance. Là, le problème, moi, je suis désolé, mais un Alban Lafont, je pense pas que ce soit un gamin. Qui n'est pas un professionnel sérieux quand ils rentrent sur un terrain de foot. Enfin, depuis qu'ils sont U12, U11, c'est des gamins qui aiment gagner sur un terrain. Je ne peux pas croire le contraire. Je ne peux pas croire que Palois, Mollet, tous ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui rentrent sur un terrain et qui sont titulaires et qui jouent pas pour gagner un match. Ça, c'est pas possible autrement.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Renaud. Mais à ce moment-là, dans tous les clubs, il n'y a plus aucune prime.
Alors.
J'ai juste une question à te poser, Marion, pour répondre,
mais après je voudrais interroger Pierre-Yves également. Oui, vas-y, Jean-Michel.
Marion, puisque soi-disant que cette prime va permettre au FC Nantes de gagner et que la motivation va être exceptionnelle au point que Nantes va se sauver, je te pose une question.
J'ai pas dit ça non plus.
Avant ta finale, oui. On te dit tu as zéro. Mais tu gagnes de Wimbledon ou
non,
tu
mais la question
la
se pose même pas. Mais c'est évident. Mais le problème, Jean-Michel, pour quand même Tu vois, mon mari était ancien joueur de foot. Il a pris sa retraite qu'il y a un an. J'ai quand même beaucoup d'amis qui sont dans le milieu du foot. Je connais ce milieu actuellement et comment ces jeunes-là fonctionnent et comment ils pensent. Et je peux t'assurer, et Dieu sait que je le cautionne pas vraiment, parce que c'est vraiment pas les valeurs que j'ai reçues moi dans mon enfance et les valeurs que mes parents m'ont transmises. Mais malheureusement, dans un contexte actuel, avec le fait que, effectivement, si Nantes redescend en Ligue 2, c'est un cataclysme pour le club. Ils ont mis trop d'investissements, ils sont en train de capitaliser, ils sont en train de faire un nouveau stade, de construire un nouveau centre d'entraînement. Il faut absolument qu'ils se maintiennent en Ligue 1. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre issue. S'ils descendent en Ligue 2, c'est catastrophique. Donc, je me dis que, quitte à, entre guillemets, ils se disent, on va utiliser la carotte qu'on connaît depuis la nuit des temps, c'est l'argent. Voilà, qu'est-ce
Alors,
que je te dis.
Le point sur le sondage sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Toujours la même chose, ça n'a pas évolué. 64% en faveur de la team ridicule, ses primes de maintien à Nantes. 36% pour la team astucieux, représentée dignement par Marion Bartoli. Pierre-Yves, on n'en a pas parlé non plus quand même des montants donnés à ces joueurs nantais.
50
quand même.
000 euros.
Ouais, c'est un mois de salaire de Christophe Cessieux, c'est exactement ça.
D'accord. Donc 50 000 euros
c'est la prime du Tour de France quand Pierre-Yves est performant, tu vois.
Sachant que par exemple.
C'est pour les verres de contact.
Pour donner un ordre d'idée, Sissoko, il est marge à 200 000 euros mensuels, par exemple. Mais Lafond, c'est 100 000. Donc c'est. C'est quand même important, 50 000 euros. C'est pas rien.
Ah bah d'accord, moi je les prends. Si tu me suis, tu vas voir, je te fais une émission.
Après, il y a un argument que vous n'avez pas donné. Et là, je vais venir à ton soutien, Marion, mais c'est le côté, les Nantais, on les voit là, on les entend.
Tu vas finir l'émission, tu vas m'appeler Marc. tu vas m'appeler Marc Schrouf. Marc Schrouf, comme ça, j'ai fini.
Non, je vais y arriver. Je vais y arriver jusqu'à midi, vous inquiétez pas. Antoine Comboiré. Il y a plus de solution. Il sent bien que son entraîneur, il est perdu, que il y a plus aucune méthode qui fonctionne sur Nantes ces dernières semaines.
C'est ça,
donc exactement. la dernière méthode, c'est uniquement l'argent. Bah oui.
C'est ça.
C'est la dernière chance en gros. Jean-Michel, non?
C'est mon argumentaire.
Oui, c'est te dire à quel point on a bien travaillé auparavant.
Non, mais ça, d'accord. Mais comme le disait Marion, perdu pour perdu.
Mais tu c'est bien ça. C'est bien. C'est la dernière chance. Et là, on est avec un dirigeant qui pense qu'on peut tout acheter avec de l'argent.
Si ça fonctionne, il dira que sa prime a fonctionné.
Eh bien, je suis pas d'accord. Bon, voilà, c'est tout. C'est aussi simple.
On va pas l'énerver non plus, François. Là, tu as titillé Jean-Michel.
C'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de le convaincre. Jean-Michel.
Le dernier est têtu.
Je sais. C'est pour ça. Bon, en tout cas, écoutez, prime de maintien à Nantes. On verra si ça fonctionne dès cet après-midi, puisque c'est à 15h. Nantes face à Strasbourg à suivre sur RMC. Match capital, on l'a dit, pour les Nantais et pour les Strasbourgeois, hein, parce que Strasbourg aussi joue son maintien cet après-midi, donc on verra si évidemment ça fonctionne cet après-midi, 15h à suivre sur RMC, ce Nantes-Strasbourg. Alors évidemment, la musique de Ligue des Champions, quand on parle de Nantes, ça peut surprendre.
Il n'y a pas la prime avec, non? Parce que comme on est dans les primes.
Mais c'est le signal, c'est le moment, je vous en parlais. Ça pouvait tomber à tout moment, ça tombe maintenant. Vous vous inscrivez tout de suite pour vivre l'expérience RMC. Gagnez votre voyage à Manchester pour le match Manchester City-Real Madrid le 17 mai prochain. Demi-finale, retour de Ligue des Champions. Vous rencontrez les équipes d'RMC Sport et vous avez votre place pour le match en envoyant foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16, vous avez 5 minutes pour jouer. On remercie Pierre-Yves, à tout à l'heure Pierre-Yves, pour notamment aussi Angers-Monaco que tu suivras et que tu commenteras pour RMC. Les GG qui reviennent tout de suite avec le fameux débat caché des grandes gueules du sport. Elles ne savent rien, mais elles doivent débattre, c'est le principe. Et c'est tout de suite sur RMC, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h30, tout pile dans les grandes gueules du sport. Ravi de vous retrouver ce dimanche pour les GG en direct jusqu'à midi avec aujourd'hui Jean-Michel Larquet, Christophe Cessieux, Renaud Longuèvre, Mario Bartoli. Dans 15 minutes, il y aura un nouveau zapping. On s'en fout pas. On parlera d'ailleurs de la dernière de Céline Dumercq avec son club de basket. C'était le dernier match de sa carrière. On en parlera avec nos GG. Dans un instant, il y aura le débat caché, comme tout le temps à cette heure-ci. Mais d'abord, il y aura du judo sur l'antenne d'RMC avec l'événement cette semaine, les championnats du monde. Ça se passe à Doha. On retrouve Pierre Thévenet qui est avec nous, qui va suivre ce matin les premiers combats. Salut Pierre.
Salut François, salut à tous.
Alors, on parle des championnats du monde parce que les meilleurs judokas français sont présents cette semaine à Doha.
Oui, toutes les stars du judo français seront bien là cette semaine pour cette grande répétition, un petit peu plus d'un an des Jeux. Teddy Riner, en tête 10 fois champion du monde, qui n'a plus participé à cette compétition depuis 2017. Autre retour, celui de Clarisse Agbenienou, 10 mois après avoir donné naissance à sa fille, qui a connu une année pas simple, marquée notamment par un conflit avec la Fédération française au sujet de son kimono. Romane Dico sera, elle, favorite chez les plus de 78 kilos. Après le bronze emporté à Tokyo en 2021, elle est championne du monde en titre et numéro 1 mondial de sa catégorie. Il faudra suivre également Amandine Bouchard ou encore Audrey Tchemeo. Lors des derniers championnats du monde, c'était en octobre dernier, l'équipe de France avait remporté 4 médailles en individuel, toutes chez les filles. Et dès aujourd'hui, on a de belles chances, notamment en moins de 48 kilos, avec Shirin Boukli, 2 fois championne d'Europe, numéro 1 mondial, et Blandine Pont, qui est la révélation de la saison. Elle a remporté 3 tournois du Grand Chelem et tient la 3e place mondiale. Elles entrent toutes les deux dans la compétition ce matin. Même chose chez les garçons, en moins de 60 kilos, il faudra suivre Lucas Mkhitze, qui avait été le premier médaillé français à Tokyo en allant chercher le bronze, et qui reste sur une belle victoire en Grand Chelem à Antalya. Cédric Revol l'accompagnera dans cette catégorie des moins de 60 kilos.
Et tout ça, ça sera à suivre avec toi Pierre, évidemment, aujourd'hui, avec Morgane Maury, qui est au Qatar pour suivre la compétition pour RMC. Merci beaucoup Pierre. Teddy Riner, ce sera samedi prochain. Quelque chose me dit que vous allez peut-être en parler la semaine prochaine avec Jean-Christophe Drouet pour son retour de Teddy Riner, qui combat donc samedi prochain. Allez, tout de suite, c'est l'heure du guet-apens.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont tout vous dire. Le fameux débat caché, un piège pour vous les GG. Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Christophe Cessieux pensait que c'était du judo. C'est perdu, Christophe. Les grandes gueules du sport sont sans filet, sans prépa, sans fiche, sans notes, sans rien du tout. On est d'accord? Le guet-apens du jour, c'est ça.
Le dernier tour à effectuer sur ce tracé du circuit Paul Ricard. Et puis George Russell, toujours sous les feux de Sergio Pérez. L'écart entre les deux hommes aussi, entre 2 et 3 dixièmes de seconde. Max Verstappen qui va maintenant franchir la ligne d'arrivée. Verstappen, bah évidemment, il a été servi par l'abandon de Charles Leclerc tout à l'heure. Donc on aura les explications un petit peu plus tard et la confirmation ou pas du problème mécanique. Et voilà ce magnifique succès qui va conforter Verstappen dans son leadership au championnat du monde après ce Grand Prix, le 12e de la saison.
Il y avait un indice dans cet extrait, c'était le circuit Paul Ricard au Castellet, puisque c'était la victoire commentée par Jean-Luc Roy de Max Verstappen l'année dernière en France.
C'est l'heure de Ricard ?
Le Grand Prix de France n'est plus au programme cette saison, on ne sait pas s'il reviendra rapidement. En tout cas, le patron de la F1, Stefano Domenicali, dans l'équipe, ne veut pas tirer un trait définitif sur la France, c'est ce qu'il a dit. Il demande à notre pays de faire des efforts, notamment dans l'accueil du public. Il déplore le manque d'interlocuteurs, il annonce même... Le jour où le président Macron me dit qu'il veut discuter pour parler du retour de la France, je viens et je serai là dès qu'il souhaite pour en parler. D'où cette question, les GG. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron peut sauver le Grand Prix de France ? Oui ou non ? Marion Bartoli.
Allez, je vais espérer que oui.
Renaud Longuèvre. On a perdu Renaud.
Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il veut le sauver ?
Est-ce qu'il peut ?
Il peut. Bah, je pense qu'il peut, oui.
Christophe Cessieux.
Moi, ces grands argentiers de la Formule 1 me fatiguent. Voilà. Donc, je pense que, mis à part si tu leur mets 1 million, leur mets une belle prime, non, je pense que non.
Jean-Michel Larquet.
Non.
Non pour Jean-Michel. On rappelle qu'effectivement, depuis cette année, il n'y a pas de Grand Prix de France. C'est pas la première fois. C'était le cas entre 2008 et 2018, où il n'y avait pas eu de Grand Prix de France. Pourquoi tu as dit non, Jean-Michel ?
Non, parce que je pense que Christophe a évoqué un aspect du sauvetage, c'est-à-dire qu'il y a les frais d'organisation eux-mêmes, ce que représente la mise en place d'un circuit avec toutes les obligations qui sont faites aujourd'hui. Et puis il y a aussi agresser la patte à tous ces gens qui sont à la tête de l'organisation de la Formule 1. Et je pense que honnêtement, ne serait-ce que politiquement, avec la situation de la France aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a des sujets bien plus importants pour le pouvoir politique que d'essayer de sauver un Grand Prix de Formule 1, même si ça me fend le cœur. Mais je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup, beaucoup plus cruciales à faire avant le sauvetage du Grand Prix de France.
Pourquoi t'as dit oui, Marion? Toi, enfin, c'était un petit oui, hein, bien sûr, mais.
Je sais non, que toi, mais il y a deux éléments. Effectivement, dans la Formule 1 actuellement, la tendance est de partir des destinations exotiques avec des villes qui font rêver et toujours plus d'attractivité sur plan à la fois marketing, sur plan de l'image donnée. Alors là, on est en plein dans le Grand Prix de Miami. On sait très bien qu'ils ont construit une fausse marina juste pour que ça fasse joli à la télévision. Donc je ne sais pas si vous en rendez compte à quel niveau de faux et de fake on en est. Mais malheureusement, la Formule 1 a pris cette direction. Donc le Grand Prix de France était un tout petit peu vieillissant. Alors on sait c'était pas le seul sur la sellette également, il y en avait d'autres en Europe. Mais là où je crois effectivement à ce que qu'Emmanuel Macron peut faire quelque chose, c'est que pour le bien d'un pays, pour le bien d'une population comme la France, on sait très bien que le sport est véhicule de beaucoup de bonheur, de beaucoup de moments justement passés en famille où on oublie un petit peu les tracas du quotidien. Pourquoi le foot est si populaire, pourquoi beaucoup de matchs en Ligue 1 sont à guichet fermé, c'est juste aussi pour faire oublier la morosité qu'on a malheureusement, qu'ont les Français malheureusement dans leur vie au quotidien. Donc je pense que le sport est véhicule, est un véhicule important dans effectivement la société actuelle que l'on a et les problèmes que l'on traverse. Oui. Quand on voit Roland Garros, l'engouement qu'il y a pour Roland Garros, les billets sont partis extrêmement vite. On voit le foot et je pense que la F1 a un très grand public, un public assez large. On peut venir largement en famille, on peut passer des bons moments sur un bon week-end. Donc il y aura intérêt, à mon avis, dans une politique globale, et c'est pour ça que je pense que le président de la F1 a voulu interpeller le président de la République, il y a un intérêt à effectivement faire revenir la Formule 1 en France pour permettre aux Français d'avoir des moments de joie, des moments de partage, et pas uniquement penser à toutes les difficultés.
Après, il faut avoir aussi un circuit, justement, qui...
Oui, il y a des améliorations à faire, mais bon, on a la capacité, on est quand même un grand pays, on peut faire des choses.
Il est peut-être magnifique, mais il est peut-être plus adapté au spectacle.
Mais pourquoi il a été complètement refait il y a quelques temps, mais c'est... Il y a le spectacle.
C'est le nombre de spectateurs,
c'est l'accès au Castellet qui est un peu compliqué. La première année, lorsqu'il est revenu, il y avait eu des embouteillages terribles. Ouais. Oui, non, mais de toute façon, les Dominicali, il arrive en hélicoptère, donc il s'en fout. Il s'en fout des embouteillages qui durent 3 heures. Non, mais ça veut dire quoi quand il lance un appel à Macron? Ça veut dire mets plus d'argent sur la table, parce qu'aujourd'hui pour avoir un grand prix sur son territoire il faut dépenser des fortunes.
Et c'est surtout que la F1 est détenue par les Américains et voilà, absolument, mais de plus en plus de grands prix aux États-Unis.
C'est difficile de s'aligner avec les pays du Golfe qui eux avec la Russie qui a dépensé des millions pour s'offrir son circuit à Sochi. Aujourd'hui la vieille Europe elle a d'autres sujets et de l'argent à mettre ailleurs.
Mais même Monaco était en danger.
Que filer de l'argent comme ça gratos à Dominicali et à toute la bande de milliardaires américains. Donc je pense que c'est pas une priorité. C'est dommage pour la Formule 1. C'est très dommage pour la Formule 1 parce que bientôt il y aura plus un Grand Prix dans la vieille Europe, en Italie, à Monaco, tout ça. Ils vont partir, ça va partir parce que ça ne file pas assez d'argent à ces gens qui ne pensent qu'au blé. Donc voilà, il faut peut-être leur envoyer Valdemar Quitta, peut-être ça marchera.
Christophe, d'après ce que j'ai pu trouver là en très peu de temps, c'est pas une histoire de gros sous. Ce n'est pas une histoire de gros sous.
C'est le dernier, oui, c'est ça. Oui.
Stéphane Clerc, le directeur du circuit Paul Ricard, avait expliqué un petit peu les raisons de la non-prolongation. Et il disait qu'en fait, en gros, la F1 avait reproché à la France, alors que dans tous les pays, il y a la présence du chef d'État lors du Grand Prix. Et là, visiblement, l'État n'avait même pas daigné. Je sais pas si la ministre était venue, mais il semblerait qu'il y avait eu un espèce de dédain de la part des autorités officielles au sommet de l'État français, que ce soit ministère des Sports ou présidence de la République, et que ça aurait déplu à la F1, qui a l'habitude dans tous les pays du monde de traiter, enfin d'être considéré, qu'ils ont le sentiment qu'en France il y a une organisation privée, il y a des organisations privées qui ont vraiment envie, il y a des fans effectivement dont on fait partie, puisque voilà, moi j'aime la regarder, je m'en cache pas, la F1, mais ils ont le sentiment qu'il n'y a pas une volonté étatique. Voilà ce que dit le directeur du circuit Paul Ricard.
Bon,
ce n'est pas qu'une histoire de gros sous, monsieur, c'est sûr. Ouais,
écoute, alors moi j'y étais le jour où la Formule 1, on avait fait une délocalisation des grandes gueules du sport, je ne sais plus en quelle année c'était, lorsque la Formule 1 est revenue au Castellet. Alors il n'y avait peut-être pas le président de la République.
C'était en 2018.
Mais il y avait à l'époque, bon c'est pas du même niveau, mais Estrosi, qui était patron de la région, avait fait tout pour remettre le circuit en place.
Il a des acquaintances avec le c'était un ancien pilote
de moto.
Oui, il a été pilote moto. Franchement, c'était l'accueil avait été génial. Il y avait une ambiance de folie. Il faisait un temps magnifique. Il y avait eu ces problèmes d'embouteillage. Mais franchement, si tu enlèves un Grand Prix à un pays parce que le président ce jour-là n'était pas dispo, non mais ils se prennent pour qui?
Ils attendent des interlocuteurs. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas d'interlocuteurs en France.
Pour les faire hacker,
peut-être. Bon, en tout cas,
il n'y a pas que le Grand Prix de France qui est menacé.
Non, bien sûr.
Parfois, a été renouvelé que pour un an. Monaco est menacé. Ils veulent partir en Afrique du Sud parce qu'ils veulent être à la hauteur de leur titre de championnat mondial. Donc ils veulent être en Afrique du Sud. On voit très bien qu'ils mettent énormément de pression sur beaucoup de circuits européens.
Qui se concentrent surtout sur le spectacle qu'ils offrent. Parce que franchement, depuis le début de la saison de Formule 1, on s'ennuie.
Oui, et puis moi, je rejoins Jean-Michel sur le fait que le président Macron, il a d'autres occupations.
Peut-être que ça serait pas d'autres très bien vu, effectivement.
Et puis il sera accueilli par les casseroles et tout. Non, franchement, c'est pas la peine.
Bon, le bruit des F1 couvrirait un peu tout ça.
Peut-être.
Normalement. Grand Prix de Miami, c'est à suivre ce soir, quand même, sur RMC à partir de 21h30, avec Jean-Luc Roy, bien sûr, aux commentaires. Verstappen qui ne partira que 9e. Donc il y aura peut-être quand même du suspense dans ce Grand Prix.
Elle est contente, hein,
c'est Sergio Perez, son coéquipier qui sera en pole. Devant Alonso et Sainz. Voilà. Gasly partira 5e, Esteban Ocon 8e pour Alpine. On verra comment ça se passe pour l'écurie française. Allez, tout de suite. Le zapping, deuxième partie. On s'en fout pas. On va parler de Céline Dumerc. C'était la dernière hier pour la basketteuse. Peut-être qu'on aura le temps aussi de parler d'un autre ami de Marion. Décidément, il n'y a que des amis dans cette émission. De Lewis Hamilton, toujours de Formule 1. Lewis. On verra. Les GG qui reviennent tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h46 sur RMC, les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi en direct, toujours avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Renaud Longuèvre et Jean-Michel Larquet, et oui, qui fait son comeback dans les grandes gueules du sport. À 11h, les GG passent la seconde. On va parler d'athlétisme parce que les Français ne brillent pas vraiment à un an des Jeux alors que ça sera à la maison. Est-ce qu'on se dirige vers un zéro pointé?
Ouais,
c'est pour ça qu'on fait le débat, parce que Renaud est là, il va nous donner toutes ses solutions.
Voilà.
Mais d'abord, c'est le zapping, le retour.
Le zapping des GG. Le retour.
Avec Céline Dumerc, première info, qui a joué le dernier match de sa carrière hier. On s'en fout, on s'en fout pas. Jean-Michel Larquet.
On s'en fout pas.
Renaud Longuèvre.
On s'en fout pas du tout.
Christophe Cessieux.
Ou pas. Donc quand tu disais elle a joué son dernier match, le dernier match de sa carrière, ou pas, parce qu'elle est spécialiste, elle est comme Jean-Michel, elle ressort toujours de sa retraite.
Mais toi, c'est tu t'en fous?
Non,
tu vas me lâcher, toi, c'est sûr, tu vas t'arriver des problèmes, je te l'ai dit.
Il cherche.
Marion.
Ah non, je m'en fous pas.
Ok. Ça fait le plein. Éliminée avec son club de basket Land par Bourges en quart de finale de Ligue féminine de basket hier, Céline Dumerc a donc normalement joué hier à 40 ans son dernier match. Elle laisse derrière elle un palmarès immense, 262 sélections, 7 titres de championne de France, 7 coupes de France dont celle remportée cette année. Meilleure marqueuse aussi de l'histoire de la Ligue féminine. Renaud Longuèvre, tu as dit non, surtout pas.
Oh non, c'est immense, immense nana, immense championne. On pourrait d'ailleurs faire un débat, savoir si elle a été éclipsée par Tony Parker, parce que ils ont eu un peu des rayonnements parallèles, puisque Tony et elle se sont croisés à l'INSEP d'ailleurs. Et elle est le pendant féminin de Tony, sauf que bon, lui, il a gagné les bagues de champion NBA, mais Céline Dumerc, c'est énorme, c'est elle qui a porté la France à une médaille olympique en basket féminin. C'était quand même, c'était aux Jeux de Londres. Elle a été championne d'Europe. Elle a joué en WNBA. Elle a joué aussi en Russie. C'est quelqu'un. C'est une belle personne impliquée à l'UNICEF. Vraiment immense respect pour toute sa carrière.
Jean-Michel.
Oui, et puis elle est arrivée dans le désert du basket français, et c'est elle qui a relevé, puisque auparavant nous avions une équipe qui était représentative et qui était toujours en finale de Coupe d'Europe des clubs champions, battue régulièrement par Riga et l'immense Semenova. Ça vous dit rien tout cela, mais
Clermont, bien sûr,
le CUC de Clermont. Et bien, par la suite, il y a eu un grand trou, ça a été le grand vide, et cette demoiselle est revenue et a porté le basket à bout de bras. Et aujourd'hui encore, elle était le symbole de ce que l'on peut faire, revenir dans son club, et redonner encore un petit peu à son club et à sa région où elle avait fait ses premières armes. Je trouve quand même que c'est un grand exemple à suivre, et je ne lui souhaite qu'une chose, et c'est faire une larquée, c'est-à-dire éventuellement revenir.
La spéciale larquée par Céline Dumerc. Un mot à ajouter, Marion, Christophe?
Non, moi Céline, je la connais bien parce qu'effectivement, elle avait été championne des championnes, l'équipe en 2012, pour son parcours exceptionnel au JO de Londres. Et comme j'avais eu la chance de remporter le titre en 2013, c'est elle qui m'avait remis le trophée, puisque la tradition, c'est que le vainqueur l'année précédente remet le trophée au vainqueur de l'année suivante. Donc j'avais eu la chance de pouvoir discuter un petit peu avec elle lors de cette soirée. Et effectivement, une immense championne, et j'espère qu'elle va pas rester là-dessus, parce que là, elle perd de presque 30 points face à Bourges, son ancien club. Donc
ah, tu veux la voir revenir, toi?
Ah oui, je me dis qu'elle est un petit barou. Un autre match. Allez, Céline, un autre match. Faut pas rester là-dessus.
Elle est manager générale, je crois, de la
Fédération à Basketland aussi, directrice sportive à Basketland aussi.
Non, mais elle a des...
Ah, la Fédé, oui, ouais, au sein de l'équipe de France,
ouais. Non,
ouais.
Là, voilà, la carrière est toute tracée, quoi. Je veux dire, avec une caps pour relancer tout ça,
okay.
On peut aller loin, déjà qu'elles sont pas mal, nos basketteuses.
Allez, deuxième info dans ce zapping. Le mondial féminin pourrait ne pas être diffusé en France. On s'en fout pas. Marion Bartoli.
Non, je m'en fous pas du tout.
Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas du tout.
Renaud Longuèvre.
Non, je m'en fous pas.
Jean-Michel Larquet.
Oh, je m'en fous pas.
Alors, la compétition, elle commence le 20 juillet. Et on ne sait pas si on pourra regarder les matchs des Bleus en France. Il y a plusieurs pays, hein, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, qui sont dans le même cas. Il n'y a pas de diffuseur. Il y a Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui a parlé de gifles pour les joueuses et pour toutes les femmes du monde. En gros, il demande 20 millions d'euros pour obtenir les droits. Et pour l'instant, TF1 et M6 qui ont proposé des offres, c'est jugé trop faible par la FIFA. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur pour ce mondial féminin. Ce qui est quand même assez fou à quelques mois. C'est honteux, Marion.
C'est honteux. J'ai l'impression de revenir aux plus basses.
C'est honteux, et c'est à cause de qui? De la FIFA,
du sport féminin. Mais c'est à cause de tout le monde. C'est à cause de tout le monde de voir autant d'écart. Les droits TV qui s'arrachent pour les hommes, pour la Coupe du Monde masculine, avec des chiffres absolument hallucinants. Et là, pour les femmes, pour 20 millions, il n'y a pas un diffuseur qui veut s'aligner. Je suis désolée. C'est honteux. C'est honteux
pour préciser que les matchs sont
pour
à
les
midi,
femmes.
Hein.
C'est honteux pour le. Mais bien sûr, mais parce ok, bien sûr, il y a du décalage horaire. Oui, il y a du décalage horaire. Oui, effectivement, c'est pas des horaires forcément qui vont être bonnes pour les personnes qui sont en Europe. Mais je veux dire, si on veut quand même faire un tout petit peu avancer l'équité sportive entre les hommes et les femmes, et Dieu sait que dans le foot, il y a quand même un gap qui est colossal. Heureusement, dans le tennis, on est quand même arrivé à se rapprocher un peu plus. Il faut absolument que cette Coupe du Monde soit diffusée, même si les horaires sont pas bons cette fois-ci. Il faut absolument qu'on puisse avoir un
diffuseur. Ça veut dire, Marion, qu'il faut que les diffuseurs soient des philanthropes. C'est à eux de faire le boulot que ne fait pas la FIFA. La FIFA qui organise cette compétition en plein été. En plein été, on sait que les audiences télé se cassent la gueule en plein été. Les gens ont autre chose à faire que de regarder la télé, regarder le foot à la télé. Ils vont à la plage et ils font les apéros. Tu diffuses ces matchs dans un pays, en Australie, Nouvelle-Zélande, avec un décalage horaire qui fait que les matchs auront lieu à 8 ou 9 heures du matin. Tu crois que t'as pas autre chose à faire
Tu crois que l'Open d'Australie, quand il est diffusé au mois de janvier, les gens ils sont pas au ski? Pourtant, il est diffusé chaque année, l'Open d'Australie. Et tu crois que les matchs ils sont pas en pleine nuit, ils sont pas à des heures impossibles, et pourtant on diffuse l'Open d'Australie. Tu peux pas me répondre ça?
Si on le regarde,
et si tu veux pas te lever pendant la nuit pour regarder les matchs, tu les regardes en replay.
Au mois de janvier, t'es pas en vacances au bord de la mer.
Il y a combien de gens qui sont en vacances au ski?
Mais alors, donc, tu dis que c'est aux entreprises des médias de faire l'effort. C'est à eux de dire, allez, dépensez sans compter, vous allez pas faire d'audience, c'est pas grave, c'est pour le sport féminin. C'est comme ça qu'il faut faire.
Mais de toute façon, ils vont diffuser quoi à la place? Ils vont mettre les éternelles séries qu'on voit en boucle. Quelque chose qui leur coûtera moins cher, Marion.
Il y a deux entrées.
Un documentaire animalier.
Alors, l'arbitre de ce duel, Jean-Michel Larquet.
Il y a deux entrées dans ce problème-là. Celui de Marion, c'est-à-dire l'équité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est le premier point. Personne ne peut en discuter. Et puis, il y a une autre entrée qui est la politique de la FIFA. Honnêtement, vous pensez que la FIFA a besoin éventuellement de 20 millions d'euros?
Mais oui.
Je pense que non. Parce que, à ce jour, je ne connais pas, Marion, je ne connais toujours pas le salaire de Monsieur Infantino et de sa garde rapprochée.
Non, mais là, je suis d'accord avec toi.
Marion, je vais simplement te rappeler que, Monsieur Blatter, puis monsieur Jérôme Valk, plus un troisième larron dont je me rappelle plus du nom. Tu sais combien ils se sont partagés?
Il y avait, non, après, mais bien sûr, mais je suis d'accord
après,
avec toi.
Après, oui, la fine, après la Coupe du Monde, à l'Afrique du Sud, où je pense qu'il y avait besoin de mettre beaucoup d'argent pour donner un élan nouveau au football et pour construire des stades, notamment synthétiques. Tu sais combien ils se sont partagés à eux trois?
Énorme.
80 millions de dollars.
Alors attends.
Et là, on parle 20 millions de
Oui, mais Jean-Michel, puis, il dit qu'il va reverser au football féminin cet argent des droits télé. Il va pas les prendre dans sa
poche. Non, mais là où je suis d'accord avec Jean-Michel.
Mais il peut le reverser, ça prend 20 millions,
il peut le reverser.
Là où je suis d'accord avec Jean-Michel, c'est quelle que soit l'offre quasiment de TF1 et M6, il faut l'accepter. Et puis la différence, c'est voilà. À la FIFA de la mettre, c'est voilà. Tout. Là, je suis d'accord avec vous complètement. Mais bon, il faut que ça soit diffusé, c'est mon argument.
C'est une honte qu'Infantino se serve de la fibre sensible comme ça et de la sensibilité du sujet sur l'égalité des genres pour essayer de négocier plus. Qu'il lâche cette Coupe du Monde au prix qu'on lui propose et elle sera diffusée.
Alors on verra justement s'il y aura écran noir. Je le rappelle, c'est le 20 juillet. S'il y a écran noir, l'avantage c'est qu'il y a RMC qui suivra évidemment cette Coupe du Monde.
Mais même s'il y a écran, il y a RMC quand même.
Voilà, bien sûr. Vous pouvez regarder la télé en écoutant RMC. Ça, c'est tout à fait possible. Dans un instant, les GG qui passent la seconde.
Ce sera à la place des grandes gueules du sport parce que ce sera tôt le matin.
Ah.
Donc tu seras en vacances, tu vas pas prendre de piche cet été, mon pauvre François.
Non, tu crois? C'est pas bon pour toi, ça. Vacances, donc moi je serai là, t'inquiète pas. Moi je suis là au mois de juillet. Les GG qui passent la seconde, on va s'inquiéter du niveau de l'athlétisme français. Est-ce qu'on va tout droit vers un zéro pointé aux Jeux Olympiques de Paris?
Aïe,
on
en parle
tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.